Voilà, donc nous sommes aujourd'hui au FRAC, de, on va dire FRAC Grand Large, qui est à Dunkerque, au bord de l'eau quasiment. Hein. Et donc avec Alice, c'est ça?
Oui, Alice Lebet, donc je suis chargée de médiation au FRAC Grand Large, tout à fait, pour les groupes et les scolaires.
Donc l'été, ça fonctionne comment, le FRAC Grand Large?
On est une institution qui accueille du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, pour tous les publics, dès 0 ans, dès la crèche, jusqu'à nous, pour les scolaires, ça sera plutôt les centres aérés et les écoles apprenantes, les vacances apprenantes. Et sinon, on accueille aussi exceptionnellement les matins, les groupes, pour des groupes touristiques, de clubs ou même du champ du handicap.
Donc jusque fin août, il y a plusieurs expositions, si j'ai bien compris?
Tout à fait. Nous avons des expositions qui ont été inaugurées le 10 janvier pour Musée Hors Frontières et ici pour Slideshow en avril jusqu'au 30 août. Après, en septembre, nous fermerons pour changer les expositions.
Donc peut-être qu'on peut présenter cette exposition consacrée aux artistes chinois, des artistes chinois, plusieurs, ce qui est assez rare d'en avoir autant. A priori, cette exposition, elle vient d'où ?
Donc elle vient de l'UCCA, qui est le centre pour l'art contemporain de Beijing, l'un des premiers centres d'art contemporain et musées même privés, indépendants de l'État en Chine, créé en 2007, et aussi en partenariat avec l'Institut de la photographie de Lille, actuellement fermé pour travaux.
Voilà, donc une exposition qui regroupe combien d'artistes et combien d'œuvres ?
Je n'ai pas compté, on est au moins sur une bonne douzaine d'artistes, en tout cas, pour on peut se dire une quarantaine d'œuvres, sachant que c'est très compliqué à quantifier. Par exemple, nous sommes devant un mur de diapositives où il y en a plus de 1000. Donc, qu'est-ce qui fait œuvre ? Alors, le mur de 1000 diapositives ou chaque diapositive, ça, à vous de voir quand vous viendrez, quand on va aller un peu plus explorer.
Voilà, donc c'est une exposition de photographie.
Tout à fait, plus précisément donc photographie diapositive qui montre à quel point la diapositive a pu être un tremplin pour les artistes chinois après la mort de Mao Zedong afin de communiquer sur à la fois entre eux leurs travaux dans le pays mais aussi à l'extérieur du pays, en Europe, aux États-Unis notamment. Et enfin, troisième partie, leur retour et donc comment ça se passe pour voir de l'extérieur vers l'intérieur.
Donc là on entend le bruit, on va dire, significatif d'un carrousel, c'est ça ?
Exactement, un carrousel Kodak, plus précisément, qui montre les diapositives de l'artiste Zheng Shenqiang, qui est un artiste clé, même j'ai envie de dire phare, dans l'émancipation culturelle et artistique des artistes dès les années 80, vu qu'il va être l'enseignant principal des beaux-arts d'abord peinture, puis photographie. Et c'est l'un des premiers homme, citoyen chinois à sortir de l'État après la mort de Mao Zedong pour parler de l'art en Chine, en dehors, plus précisément au Minnesota.
Donc les artistes chinois ont souvent fait leurs études dans les arts académiques, aux Beaux-Arts,
oui.
Donc des choses très classiques.
Exactement.
La photo au début, enfin dans les années 60-70, c'était peut-être plus rare.
Exactement, en fait la diapositive et la photographie étaient surtout utilisées par l'État, notamment avec des projectionnistes qui venaient de ville en ville avec une simple petite boîte de diapositives qui permettait d'une part donner information aux pays, aux villes rurales, mais aussi d'éduquer. Donc le but de la diapositive, comme nous connaissons aussi, et in fine, en fait, faire propagande. Mais ce qui a forgé toute une génération d'artistes qui va s'en inspirer, s'en saisir pour le détourner et cette fois-ci s'en émanciper afin de faire communication par les diapositives de leurs travaux et bien de se détacher d'un gouvernement autoritaire et jouer enfin avec le vrai, le faux pour pouvoir à leur tour communiquer, à leur tour transmettre leurs moyens de faire art et ainsi discuter ensemble, faire des réunions artistiques et montrer devant l'État qu'il y a une véritable scène artistique qui se joue, surtout que la diapositive et la photographie sont très simples d'impression. Donc ça permettait aussi de créer fanzines, magazines spécialisés, revues qui vont de plus en plus appuyer le foyer d'artistes par la diapositive et la photographie.
Alors évidemment, Pékin est un lieu un peu phare en tant que capitale, et où l'art s'est quand même bien développé, c'est un foyer culturel important. Il y a des zones aussi culturelles, je pense au 798, ou des endroits où il y a des présentations d'œuvres et des galeries, et puis des musées aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Bah, là, on va plus se concentrer d'une part sur Pékin, Beijing, mais aussi sur Huangshan, qui est en fait le laboratoire culturel de l'époque, dans les années 80, parce que ça va être cette école des beaux-arts qui va soutenir une centaine d'artistes afin de créer la première véritable exposition qui s'appelle justement Slideshow, en 1988. L'exposition se divise en trois parties. Nous avons d'abord la transmission qui va plutôt montrer le faire de la diapositive et comment était utilisée la diapositive avant les années 80, pour ensuite avoir la partie de la réfraction, centralisée notamment sur Zheng Shengtian, mais aussi sur comment est-ce qu'elle va circuler et instruire les artistes chinois, puisque c'est la première fois qu'on va voir de l'art en dehors de la Chine. Donc s'inspirer, là on voit très bien, s'inspirer des œuvres de Van Gogh, mais aussi de l'art allemand, de l'art occidental en somme, pour enfin arriver à la partie sur la transparence, où cette influence, cette inspiration va pousser les artistes chinois à faire leur propre exposition, s'émanciper, s'inspirer aussi des œuvres d'art du Centre Pompidou, créer leur propre mouvement artistique de non-retour, c'est vraiment un mot-clé pour le coup. Et ainsi, vous avez dans cette dernière partie un panorama artistique de différents artistes sur comment est-ce qu'ils emploient la photographie de manière intime, mais aussi réflexive sur comment ensuite va s'utiliser la photographie.
Donc les artistes, on va dire qu'à notre époque, il y a beaucoup d'artistes chinois qui sont dans nos écoles, notamment à l'ESA, l'école Dunkerque et Tourcoing.
Oui.
Et donc, on imagine qu'ils viennent après déjà un cursus solide en art, beaux-arts, etc., pour trouver peut-être leur personnalité. Est-ce qu'à l'époque, les personnalités, des personnalités ont émergé, c'est-à-dire pas forcément copier ou s'inspirer trop fort de l'art occidental, par exemple, mais avoir une réelle personnalité artistique?
Oui, on sent tout à fait qu'il y a et inspiration, mais bien une culture chinoise qui est bien particulière à chaque artiste, qui va émerger et qui va se mélanger. On le voit très bien avec l'œuvre devant nous, donc de Lin Jiahua, qui, suite à la vision de ces milliers de diapositives de Zheng Shengtian, eh bien, s'en inspirer pour à la fois utiliser, on va parler d'art de nouveaux médias, où ici l'artiste se projette sur son propre corps des diapositives et ainsi jouer entre notion de performance, notion de photographie et de diffusion, comme vous pouvez le voir.
C'est drôle, c'est un petit côté mystique en regardant de loin.
Oui, c'est pas un hasard d'avoir choisi une œuvre d'art à caractère religieux, plutôt chrétien, d'ailleurs ici. Peut-être aussi parce que ça leur était tout à fait extérieur, c'était une découverte totale. Et donc de nouvelles icônes, de nouvelles manières de faire art, de représenter la peinture à l'huile. Et surtout, si vous regardez autour, il s'est mis comme un pilier, un troisième pilier. Il est encadré par deux piliers qui ont l'air d'être plutôt des chapiteaux d'église, en tout cas d'un art plutôt romain, une église romane, je dirais, bien qu'il y ait aussi cette couleur bleue et verte qui peut rappeler le ciel ou le bleu de Marie.
Voilà, donc là on est bien dans le cadre d'une photographie,
C'est
presque un autoportrait dans un ensemble.
Oui, un autoportrait assez étrange, vu qu'en effet, quand je fais la visite avec des plus petits, ils me disent « mais il n'a pas de visage », mais c'est parce qu'il a la tête vers le bas. Donc un autoportrait, non pas par le portrait en tant que tel du visage, mais bien le portrait du corps, le portrait peut-être d'une idéologie, vu qu'en plus, on voit la prolongation des jambes qui est faite avec le drapé du personnage. Moi, je pense que c'est du coup Sainte-Marie ou Sainte-Anne, mais je pencherai plus pour Sainte-Marie, avec ce rapport de mélange des corps, de superposition, qui est assez cocasse, mais qui montre plutôt peut-être la pensée de l'artiste à ce moment-là, plutôt que l'identification physique.
On peut peut-être présenter ces portraits. Donc là, des portraits magnifiques. Hein. Donc ce sont des photos, toujours, bien sûr. Hein.
Tout à fait.
Et des portraits qui sont quand même... On pourrait les imaginer en peinture aussi.
Oui, c'est typiquement le travail d'un artiste qui a fait les Beaux-Arts aussi. Donc c'est Song Dong. Et là, on a dédié toute une salle pour son travail. Et on parlait de lien familial et d'intimité. Ici, on se rend compte que la photographie et la diapositive étaient vraiment une affaire de famille et une affaire sentimentale. Parce que devant nous, on voit donc un portrait de l'artiste en bas à droite, là-bas, mais surtout le portrait de son papa, ici à gauche, où les deux beaux portraits, très beaux, presque comme de peinture à l'huile, je suis d'accord, avec cette main en ombre qui arrive, qui effleure l'épaule puis le bras de son père. Donc il utilisait justement la diapositive, donc il a pris en photographie sa main, qu'il a projeté sur son papa pour ensuite le caresser. Et il a pris en photo ce moment assez suspendu, très touchant. On pourrait presque y deviner une larme sur le portrait à droite, vous voyez, on peut voir qu'il suit le mouvement de la caresse. Et on a presque l'impression qu'on ne devrait pas être là, où c'est un moment privilégié entre père et fils, oui, intime. Et l'artiste va confier justement que c'est l'une des premières fois depuis très longtemps qu'il avait touché son papa, donc de manière indirecte.
C'est vrai qu'il y a une certaine pudeur en Chine,
oui.
Et surtout en public.
Ah oui, surtout. Donc montrer cela sur des grands formats, portraits, avec en plus le visuel direct de son papa, on ne peut qu'être touché par ce rapport familial qui, en plus, avec toutes les lois et les autorités qui ont été insufflées aux familles chinoises, notamment la politique de l'enfant unique, ou alors aussi le travail parfois forcé d'enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école pour soutenir la famille. Là, on voit un rapport tout autre qui était possible et qui peut ensuite être diffusé grâce à la photographie. Et c'est un beau cadeau que nous offre l'artiste.
Et au-dessus, on voit sans doute, c'est un lieu d'exposition en haut avec des photographies projetées.
C'est un temple. Bon, là, on voit très bien le lien. On sait qu'ils sont du même sang. On dirait vraiment la même personne à quelques années près. Et par-dessus, donc, la diffusion de ces trois portraits sur les piliers du temple. Donc c'est comme si quelqu'un de votre famille avait diffusé votre photo sur les fondations d'une église ou d'un lieu clé.
En même temps, ce sont ceux qui soutiennent la maison.
Mais oui, les fondations, donc un jeu de mots sur les fondations, où on revient aussi sur la première œuvre qu'on avait énoncée tout à l'heure, avec des briques de fondations de maison. On se rend compte qu'en fait, la diapositive, la photographie, n'était pas qu'une affaire d'État, mais bien quelque chose d'intrafamilial et d'extrêmement intime qu'on nous donne à voir.
Voilà, donc c'est magnifique aussi en termes d'organisation entre ces trois portraits qui sont l'un à côté de l'autre et puis les trois piliers qui sont au-dessus, qui élèvent, on va dire, peut-être aussi la spiritualité.
Mais oui, on a tout un vocabulaire, un jeu de mots qu'on peut développer à ce propos, que ce soit les fondations d'une famille, les liens du même tronc, les piliers, la notion du matériel et du spirituel. En plus, les temples ne sont pas que des lieux de culte, c'est aussi de véritables lieux de rassemblement pour divers événements, pour aussi qui marquent le calendrier, les fêtes. Donc c'est un véritable lieu de vie qui donne, donc mettre portrait sur ce type d'espace, c'est donner vraiment au public, à tous, la joie de partager aussi ce lien familial.
il y a une projection verticale là, qui se fait vers le sol d'un poisson qui s'agite, visiblement sorti de son bocal.
Oui, tout à fait. Donc là, c'est de Zoogia qui nous propose de manière assez étonnante, qui peut parfois choquer certains publics, la vision d'un poisson qui est en train de s'étouffer à l'air libre, mais diffusé non pas au mur comme on pourrait accrocher une œuvre d'art, mais bien au sol, donc au risque d'être piétiné par les visiteurs. C'est une boucle de 19 minutes. Je vous rassure, aucun poisson n'était mis en danger. À chaque fois, en fait, il y a des coupures et donc aucun poisson n'en est décédé. Hein. Mais vraiment. Mais du coup, il y a cette et je le dis parce qu'il y a des publics qui nous ont fait la remarque, qui étaient choqués, qui trouvaient qu'on soutenait la maltraitance animale. C'est tout l'inverse, évidemment. Et là, l'artiste nous propose justement une analogie de lui-même ou en tout cas du mouvement artistique des Chinois qui veulent s'émanciper, qui enfin peuvent se libérer, mais qui se rendent compte qu'il y a forcément écran, barrage, limitation, et donc s'étouffer dans leurs propres moyens du bord. Comme vous avez un peu dit, les cantonner seulement à un sujet qui est anti-propagande, anti-communisme, les cantonner aussi à des clichés. Et donc là, l'artiste a voulu en fait, faire une sorte de cri de libération pour dire... on est autre que ça.
En même temps, sortir du bocal, ils ont peu d'espoir. Hein.
C'est ça. Et c'est un peu, je pense à Zheng Shengtian, qui était l'un des premiers à pouvoir enfin sortir du grand bocal, qui était cet état chinois de Mao Tse-tung, où enfin il avait pu sortir exceptionnellement. Et à ce moment-là, c'était complètement révolutionnaire. Il y a eu un après, mais totalement autre qu'on n'aurait pas su deviner pour le coup.
En fait, pour sortir du bocal, il faut avoir un endroit où se réinstaller dans des conditions supportables.
Oui, ou atterrir. Et ils ne sont pas tous à travailler en Chine, justement, ces artistes. Ils sont assez internationaux. Et c'est en cela qu'ils peuvent avoir cette liberté d'expression, je pense.
À l'entrée, j'ai entendu des bruits d'oiseaux et je me suis interrogé sur quel oiseau, deux, pourquoi, quel est le contexte. Là, on va aller se rapprocher de ce bruit d'oiseau qui est là-bas.
En tout cas, je peux déjà vous répondre. Le bruit des oiseaux en particulier sont pas très significatifs. Ce qui était intéressant, c'était l'immersion. Comme vous pouvez le constater, de toute manière, cette exposition est assez sensorielle. Elle est plongée dans une semi-obscurité. Elle est un peu immersive. Et là, on vous proposait d'arriver en Chine, en campagne, dans un village, et de vous incarner comme un de ces habitants qui rencontre une projectionniste. Parce que l'exposition ouvre sur, justement, un poster de propagande de projectionniste. Donc, c'était un métier de l'État où les projectionnistes étaient formés pour chanter, on le voit très bien, avec un haut-parleur, jouer de la musique et diffuser des diapositives afin de rendre information, de communiquer, d'apprendre des choses. Ça pouvait être quelque chose de culturel, l'actualité, des moyens de médecine pour se soigner, mais aussi du coup d'être un support de propagande militaire notamment, afin d'apprendre aux villageois, villageoises, tout ce qui se passe en dehors de leur contrée.
Alors, récemment encore, j'ai vu des projections dans des villages en Chine.
Je ne savais pas.
De films, distractions aussi. Il n'y a pas films de propagande. Ce qui est assez magique, c'est que dans le village, qui est un tout petit village, il n'y a pas grand-chose comme distraction. Oui. Et ramener le cinéma, l'écran, etc., c'était vraiment... La nuit, il faisait bon la nuit, c'est extraordinaire. Oui. Et j'ai vu ça aussi projeté comme ça à Xi'an, où il y avait les studios de cinéma très connus, avec des grands metteurs en scène qui sont allés tourner là-bas. Et à l'extérieur, le soir, il y a toujours une projection. Il y a un monde fou, assis tranquillement. Donc il y a encore cette pratique, on va dire, de, comme on a aussi eu en France des endroits où on fait des projections de films. Et là-bas, je trouve que ça a un autre style, un autre, notre sens.
Bah oui, tout à fait, exactement, parce que ça va être d'emblée employé par l'État lors de la création de la République de Chine de Mao Tse-tung. Dès les années 50, on va avoir ces projections. Donc ça va forger toute une génération à avoir cette poussière un peu dans les yeux, cette poussière d'étoiles, cette magie, vu que c'était presque quelque chose un peu de spectaculaire, hein, que les enfants chinois vont cultiver, vont avoir cristallisé, un peu comme nous avec le cirque, hein, qu'ils vont ensuite... avoir volontiers envie de montrer à leurs enfants. Et ça, justement, c'est les artistes chinois que nous proposons, que nous montrons, ont cela en tête. Ils ont grandi avec ça. Et donc, quoi de plus compliqué quand même de remettre en question un médium qui leur a à la fois montré paillettes et divertissement, spectacle, tout en même temps se rendre compte de son usage détourné et à leur tour, du coup, de se l'approprier. C'est là que tout se joue et c'est le propos de cette exposition assez bien rodée pour le coup.
Alors, j'ai vu des revues d'époque, hein, oui. Et cette photo qui est là, elle est vraiment à l'image des autres photos de propagande c'est vraiment toute une période 80-90 où on retrouvait cette atmosphère d'une Chine heureuse avec la connaissance. L'arrivée, l'irrigation, on va dire, des villages par les gens qui ont des compétences, des connaissances, qui ramènent des moyens aussi et qui structurent.
Exactement. Hein. On a aussi la deuxième, là, que vous pouvez voir à gauche, où on voit carrément donc les villageois de tout âge, de tout genre, regarder avec le grand sourire, bien habillés, hein, comme si ils s'étaient endimanchés un petit peu. À voir si la réalité était la même, mais on sent que c'était un événement qui devait être visionné, que c'était le moment de sortie aussi en famille et de réunion du village. On voit aussi un échantillon, en fait, là, l'exposition propose presque une généalogie, j'ai envie de dire, de la diapositive. On voit typiquement une boîte que pouvaient transporter les projectionnistes, leur petit manuel de formation, ainsi que leur format. Donc là, on est quand même sur du grand format, hein, comme on peut le voir, mais qui pouvait s'adapter tous les appareils de diffusion. Aussi, ce qui était pratique avec la diapositive, c'est qu'on pouvait l'avoir sur différents supports, papier, mais aussi verre et autres, cartons. Donc, ce qui permettait une reproduction extrêmement facile et ainsi un échange de main en main extrêmement pratique.
Voilà, diapositive donc des années 50. Hein.
Oui, hein. Là on est années 50, années 60, dès le début en fait du gouvernement afin de faire union. Ça permet de montrer justement un moyen de Mao Tse-tung pour... apprendre et réunir villageois et villageoises autour d'un même sujet, pour le coup. Et
donc, pour la République populaire de Chine,
oui,
hein, la
exactement.
République de Chine, elle a migré après.
Oui, oui, tout à fait. J'ai écourté, mais la République populaire de Chine, tout à fait. On voit aussi des exemples, juste derrière nous, une sélection de... Donc la commissaire, c'est Holly Roussel, qui est une spécialiste de l'histoire de l'art en Chine, et plus précisément du coup de la photographie, qui travaille avec l'UCCA, hein, et qui nous a fait une sélection de diapositives, à la fois pour montrer toutes les thématiques qui pouvaient être abordées, mais aussi du coup le mélange d'informations, ou le vrai, le faux, l'information journalière, apprendre, tout était mélangé, mais tout était vu comme une sorte de spectacle. Hein. C'est assez beau à voir, c'est assez impressionnant.
Et donc ces photos-là, enfin, ce genre de photos, on les trouve encore en Chine, oui, dans des musées ou des lieux, même des lieux symboliques comme les lieux de congrès, etc., où on a encore ces, oui, portraits, etc., pour montrer que le temps a passé, mais que le parti est resté.
Oui, exactement. Bah, de toute manière, je pense que ça sera toujours un peu le cas. On ne peut pas enlever toute une histoire aussi marquante. Oui, la salle de Mao, avec le portrait de Mao en très grand et le sigle du Parti communiste, elle est assez marquante. Hein. Je me demande si on ne peut pas la voir en plus petit format ici, mais je ne crois pas, je ne suis pas sûre. Parce que là, ici, vous avez du coup comment apprendre à faire médicaments, mais aussi ici des diapositives de radio.
Ce sont des vraies diapositives.
Ce sont des vraies diapositives. Vous voyez aussi le sigle avec l'étoile rouge, juste là. Donc ce sont des vraies diapositives que je ne sais pas lire l'écriture, hein, les idéogrammes, mais en tout cas qui permettent d'avoir une bonne idée de ce qui était diffusé. Des radios du coup qui étaient remises au format diapo pour ensuite diffuser. Ou ici des photographies de l'agriculture, de botanique, chimie, médecine, botanique.
Ouais, c'est très riche comme exposition au final. Ouais.
Je la trouve assez intéressante et ça permet un beau panorama des années 80 en tout cas jusqu'à aujourd'hui et comprendre à quel point le support de la photographie a été un moyen clé, un levier pour les artistes, mais aussi encore aujourd'hui est un bon moyen pour diffusion et pour expression artistique.
Alors c'est vrai que j'ai vu moi des photographes chinois qui sont venus exposer en France et qui ont l'avantage là-bas de bénéficier à la fois de supports pour mettre leurs photos de très très grands formats, je veux dire 4 mètres de haut sur 3 mètres de large par exemple, et aussi d'avoir pour faire leurs photos, pouvoir utiliser les studios cinéma la nuit. Donc ça leur permet d'avoir d'immenses studios, des figurants en quantité, et d'utiliser les lieux pendant que ce n'est pas utilisé par le cinéma, et d'arriver à faire des choses extraordinaires.
Oh, je ne savais pas du tout, je trouve que c'est une super information.
Ah, ouais. Donc ça, je l'ai vu à Arras il y a 15 ans peut-être, parce qu'à l'époque, il y avait une biennale dans la région de la photographie.
Ah, maintenant, ils font plutôt sur l'animation. Il y a chaque année le festival du court-métrage et de l'animation.
Ouais, mais là, je parle vraiment de photos. Oui. Hein, ouais. C'était génial. Et donc là, c'était... Alors, je ne sais plus le nom, si c'était Wang Qingsong ou quelque chose comme ça. Mais ça m'avait vraiment marqué. Oui. Et dans les allées du Palais Saint-Va, donc à Arras, il y avait des grands formats de photographies qui représentaient des scènes très bizarres, en fait, très, très complexes. Et l'usage des photos de 3-4 mètres de haut, c'est grâce au support possible en Chine. On ne pouvait pas, il y a 15-20 ans, les fabriquer en France. Donc il y avait cette possibilité technique.
On le voit très bien ici sur cette diapositive. Hein, l'imprimerie, c'était vraiment le lieu de diffusion par excellence, puisque à la fois on peut imprimer les journaux comme photographie, comme diapositive. Et donc la Chine, comme on connaît très bien, qui est ce pays industrialisé très vite pour ensuite faire des très grands formats, et ben va permettre en grande masse, en grande quantité et de toute taille à la diffusion de ces photographies. Donc je pense qu'il doit y avoir du lien avec ce que vous dites pour le coup.
Voilà, et c'est vrai que nous aussi, on a des artistes qui projettent sur les murs.
Oui.
Là, c'est encore autre chose. Donc l'usage de la projection
vidéo,
vidéo. C'est vrai qu'ici, on a la chance d'avoir des artistes aussi vidéastes qui font... tous les ans des présentations sur les façades.
Oui.
Et c'est quelque chose d'intéressant.
Bah oui, et ça donne une bonne idée. Ça, on pourrait proposer la projection de photographies pour les prochaines expositions. Avant, on le faisait. Faudrait voir si on ne peut pas le refaire. Surtout que du coup, on va... là, ici, cette exposition, c'est un prologue par rapport à toutes nos autres expositions qui vont arriver, vu qu'on a eu le label bicentenaire de la photographie. Et ici, on a une sorte d'amorce, vu qu'à partir d'octobre, on va montrer tout notre fond photographique, pas que chinois pour le coup, mais entre autres. Donc plus de 400 œuvres qui vont tourner pendant toute l'année, d'octobre 2026 à août 2027. Donc pourquoi pas en sélectionner quelques-unes et les diffuser sur notre façade, ça peut être très intéressant.
Voilà, donc une dernière salle avant de nous quitter. On est ici dans un lieu, dans l'obscurité complète, on va dire, quoique.
Quoique, tout à fait, puisque nous sommes dans une caméra obscura, boîte noire ou sténopée. Donc, comme si nous étions dans un appareil photo. Et oui, en effet, il faut se cacher de la lumière, parce que sinon, l'œuvre n'apparaîtra pas, puisque le principe du sténopée, c'est bien de séparer une boîte en deux, pour avoir d'un côté toute la partie celle d'argent, miroir, pour capturer la lumière. Et nous, nous retrouvons dans la deuxième partie où l'image s'affiche au mur. Et petit à petit, notre œil qui s'habitue à l'obscurité fait apparaître comme par magie. Mais c'est bien scientifique, hein, c'est bien quelque chose qu'on peut faire à la maison aussi avec une boîte en carton. On voit l'image donc d'un salon qui se dessine. Sauf que ce salon est inversé, il est en miroir et le bas est en haut, au lieu d'être avec le haut et le bas.
Alors l'artiste est chinois, et en quoi ça se traduit, ça se manifeste dans cette œuvre ?
Mais l'artiste, ici, est en train de dépeindre un salon occidental, et c'est un peu la conclusion de notre exposition, vu que les artistes chinois qui ont pu s'émanciper grâce à la photographie ont eu une énorme influence occidentale. Or, ici, l'artiste se questionne à quel point l'influence occidentale a-t-elle été bénéfique, et est-elle bénéfique encore aujourd'hui ? Ce salon que nous voyons n'est pas du coup un salon typiquement de la culture chinoise, mais bien un salon européen ou américain. Et donc, jusqu'où s'arrête, où est bénéfique l'influence ? Est-ce que cette influence qui a pu être un levier n'est pas justement quelque chose qui va submerger les artistes chinois et, à force de trop influencer, un peu presque comme une critique du colonialisme, ou en tout cas de l'empire du soft power occidental sur la Chine ?
Voilà, effectivement, il n'y a qu'à voir le nombre de McDo et autres là-bas pour se convaincre au cas de l'infiltration, pour le moins.
Ah mais oui, on est totalement là-dedans. Et en plus, il y a même une mise en abîme, d'ailleurs, sur la photographie, enfin sur l'œuvre d'art d'une photographie. Et donc, ainsi, une question ouverte, qui influence qui ? Sachant que la photographie, on le dit officiellement dans les textes, que c'est une création française depuis 200 ans. Mais quand on regarde bien entre les lignes, c'est aussi une création en fait mondiale d'un peu partout, d'un phénomène de société où on se rencontre de produits chimiques et de créations. Et puis le papier, sur lequel nous imprimons la photographie, est bien chinois.
Voilà, donc on va dire dans l'immédiat jusque fin août, venir voir ces expositions actuelles et après d'autres projets pour la rentrée.
Oui, tout à fait. Donc on va inaugurer « Je rêvais d'un autre monde » qui va occuper justement tout ce troisième étage maintenant, sur un focus sur la lumière et les débuts justement de la photographie, comment la lumière est l'élément clé d'une photo. Mais aussi, on va inaugurer au rez-de-chaussée une exposition en partenariat avec la ville de Wormhout et la maison de Jeanne De Vos, qui est l'une des pionnières dans la photographie par une femme en France, en Hauts-de-France, et notamment pour capturer le quotidien rural de Wormhout. Ainsi de suite, l'exposition « Je rêvais d'un autre monde » sera aussi exposée au Château Coquel, avec une section sur les luttes. Ensuite, on aura un deuxième et un troisième volet. Le premier volet donc, d'octobre est par la commissaire de chez nous, donc notre directrice, Madame Karen Deton. Pour le deuxième volet, ça sera Madame Anne Lacoste, donc la directrice de l'Institut de la photographie de Lille. Et pour le troisième volet, ce sera Monsieur Paul Leroux, qui est le directeur du Château Coquel.
Eh bien, merci Alice, un beau programme.
Oui, ça s'annonce très bien, donc venez nombreux. N'hésitez pas à venir questionner et à découvrir nos photographies.